Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie.
Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Goal! Goal line. Touchdown.
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 Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 728 de Touchdown Actu, épisode draft. Ça y est, c'est parti, la draft prend le pouvoir, la NFL c'est fini, nous sommes les nouveaux maîtres du flux, ne dites pas Alain évidemment, mais nous allons évidemment maintenant prendre plus de temps pour vous parler de la draft. Pour m'accompagner aujourd'hui, il est de retour, comeback podcaster of the year, l'homme que tout le monde attend, Jean-Michel. Bonjour à toi, Jean-Michel.
Hey, bonjour tout le monde, oui, ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment là, ça faisait vraiment plaisir. Écoutez, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est vrai que sur Twitter, il y a des gens qui m'ont demandé, ils s'inquiétaient. Vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai déménagé, c'est pour ça que je n'avais pas le temps. Voilà, parenthèse terminée. Allez, on va se faire un podcast, ça fait plaisir.
L'accent chantant qui nous manquait dans ce podcast, évidemment. Alors, je le rappelle, s'il y a des nouveaux auditeurs, parce que tous les ans, il y a des gens qui nous rejoignent, à quoi ça ressemble une draft, des podcast drafts. Je vais faire juste une minute là-dessus. Là, vous allez avoir deux fois par semaine, alors cette semaine, il n'y en aura qu'un, évidemment, mais deux fois par semaine, vous allez avoir un podcast de position. Donc, 45 minutes, une heure, sur lequel on va vous parler 2, 6, 7, 8, 9 joueurs, il n'y a pas de règle. Ça dépend des postes, ça dépend des besoins. Par exemple, on a la semaine prochaine le podcast de Tight End. On ne vous promet pas de faire 10 joueurs, hein, parce que sinon, on va arriver quasiment dans les undrafted. Je plaisante à moitié. Donc voilà, on va évidemment vous faire position par position. On va pas hésiter à revenir sur des joueurs qu'on a déjà évoqués, puisque des gens pendant la saison n'ont pas forcément eu de temps d'écouter tous les podcasts. Donc l'idée, c'est vraiment, vous arrivez, vous vous dites, ok, j'ai rien vu du college football cette année, quels sont les joueurs que je dois suivre? Ou à l'inverse, vous êtes déjà au courant, mais vous voulez réviser, c'est un bon moyen de faire. Et ensuite, 32 jours avant la draft, on aura les pastilles, comme on a tous les ans. Donc les pastilles, évidemment, c'est une pastille par équipe que vous aurez tous les matins. Entre temps, on aura aussi des débriefs du combine, qui est évidemment l'événement un peu pré-draft, et éventuellement même on aura quelques débriefs des pro day, mais qui seront inclus dans les autres podcasts. Donc voilà un peu tout le programme. On va commencer dès maintenant avec une position un peu importante, qui est la position de quarterback. On a choisi 8 joueurs, Jean-Michel, 4 chacun, répartis dans 3 chapeaux. Le chapeau 1, qu'on va appeler vraiment le top 10, en tout cas ceux qui paraissent être un petit peu au-dessus du lot. Le chapeau 2, avec des joueurs qui peuvent prétendre au premier tour. Et le chapeau 3, avec entre guillemets 2 sleepers, comme on aime les appeler, donc ces joueurs dont on parle peut-être un peu moins, même si évidemment, quand on parle de sleeper au niveau des quarterbacks, on parle de deuxième ou troisième tour, là où sur d'autres positions, on peut parler beaucoup plus loin. On va commencer tout de suite ce chapeau 1. Et c'est moi qui ouvre le bal avec, évidemment, celui qui est pour moi le meilleur quarterback de cette draft, c'est Drake May. Drake May, c'est par beaucoup d'aspects Justin Herbert, pour aider les gens à tout de suite contextualiser. C'est-à-dire un excellent lanceur, un joueur capable de faire toutes les variétés de lancers qu'on peut connaître, donc au milieu du terrain, sur les côtés, des balles en cloche, des balles un peu plus puissantes, même parfois des lancers un peu non conventionnels selon la position dans laquelle il est. Donc c'est vraiment un joueur, alors c'est ce qu'on appelle un pocket passeur, donc un joueur de poche dans le passé. Évidemment, la NFL ayant évolué, même les quarterbacks de poche sont aujourd'hui mobiles. C'est-à-dire qu'il est capable de faire une course de 10-15 yards s'il y a besoin. Ce n'est pas Peyton Manning, avec tout le respect que j'ai pour Peyton. Donc voilà, donc avant tout, c'est un lanceur d'exception. C'est vraiment un joueur qui semble prêt pour la NFL, un joueur que vous pouvez faire démarrer dès la première semaine et qui a, on va dire, tout ce qu'on aime à appeler des intangibles, donc tous les critères dont on a besoin pour être un quarterback en NFL. Après, il est évidemment encore imparfait. Et je vais dire tout de suite, moi, je trouve cette classe globalement imparfaite. Si vous voyez des journaux en train de vendre des quarterbacks générationnels, à mon avis, c'est juste qu'ils veulent du clic. C'est un joueur qui peut, sous pression, faire des erreurs. C'est un joueur qui manipule pas toujours la poche comme il faut. Il prend souvent des sacs un peu idiot. Si vous avez vu Brock Purdy au Super Bowl, qui prend de mémoire un seul sac, il y a beaucoup de quarterbacks qui en auraient pris 5 ou 6. Donc, c'est important de savoir manœuvrer la poche pour éviter la pression. Et puis, parfois, mais c'est aussi le style de jeu dans lequel il est à North Carolina, c'est des prises de risque un peu énormes. Mais encore une fois, une attaque verticale comme ça nécessite aussi une prise de risque. Si vous voulez... Et là, je fais très schématiquement. Hein. Au niveau aérien, North Carolina, ça ressemble un peu à ce que vous pouvez voir aux Dolphins. Sauf qu'il n'y a pas Tyreek Hill. C'est-à-dire un jeu très, très vertical. Moi, j'aime beaucoup voir ce genre d'équipe. Donc, voilà un peu mon analyse de Drake May. Jean-Michel, est-ce que tu partages ? Est-ce que tu le vois un peu différemment ? Et question annexe à laquelle tu pourras répondre à la fin. Est-ce que c'est ton quarterback numéro 1 de cette saison ?
Non, je partage vraiment ce que tu dis. C'est vraiment un très, très bon joueur. Et puis oui, c'est vrai que même l'impression visuelle, tu parlais de Justin Herbert, déjà l'année dernière, on le voyait, on se disait « Oh, il fait penser à quelqu'un ». Et ouais, il fait penser à Justin Herbert, et notamment pour ses passes en profondeur. Voilà, franchement, c'est un super lanceur en profondeur. Alors, il y a peut-être un petit peu trop d'air à mon goût au niveau de ses passes longues, mais elles sont toujours précises. Il arrive vraiment à propulser ses receveurs dans la profondeur. Et ça, c'est important en NFL pour faire des différences comme ça, des jeux d'impact. Il sait très bien le faire. Tu l'as dit, c'est un lanceur depuis la poche. Mais attention, il peut courir aussi. Il gagne des yards au sol quand il le faut. Voilà, c'est pas ce qu'on appelle une double menace, mais c'est un quarterback qui est capable. Voilà, s'il n'y a pas de solution à la passe, s'il faut avancer pour gagner une première tentative, il sait le faire. En plus, il a le gabarit pour le faire. Donc, il est vraiment très intéressant. Les passes longues, mais ce que j'aime bien aussi, je trouve que, voilà, déjà pour le jeu en pro, c'est qu'il lance très vite. Voilà, ce qu'on appelle le quick release, c'est-à-dire que il reçoit le ballon et puis en moins de 3 secondes, ça y est, il a lancé. Ça, il sait très très bien le faire parmi tous les prospects qu'il y a. C'est un des meilleurs, le temps le plus court avant de lancer. Et donc ça, c'est très très bien aussi pour la NFL. Donc oui, évidemment, il n'est pas parfait, mais il a quand même beaucoup d'atouts, Drake May. Et pour répondre à ta question, non, ce n'est pas mon quarterback préféré parce qu'il manque juste un tout petit truc de hit factor que le suivant, celui dont je vais parler, a, qui est peut-être moins accompli, si tu veux, mais il a ce truc en plus, ce X factor, et que voilà. Donc, du coup, moi, je le préfère. Mais Drake May, vraiment, c'est un quarterback très solide.
Eh bien, allons-y, parce qu'on va avoir un grand désaccord, puisque le prochain quarterback dont on va parler est mon quarterback numéro 3. Personnellement.
Oh,
eh oui, on va... eh oui. Mais c'est forcément le nom que vous connaissez tous, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être le joueur le plus hype, parfois le plus polarisant pour certains, c'est Caleb Williams. Alors, vas-y, Jean-Michel, défends ton choix et explique-nous pourquoi Caleb Williams est pour toi le quarterback numéro 1 de cette draft.
Ah, alors attends, tu vois, je ne dis pas qu'il est le numéro 1, je dis qu'il est mon préféré et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ensuite, je viendrai sur ce défaut parce qu'il en a des défauts et malheureusement un petit peu plus que d'autres. Mais je vais commencer, voilà, pourquoi c'est mon quarterback préféré. Ben déjà, parce qu'il a une grande capacité d'improvisation, il est super spectaculaire. Je veux dire, on l'a vu tellement de fois, sa poche, sa ligne offensive s'effondrer, il a attaqué de toutes parts, et ben il fait un pas de côté, un deuxième, et puis il trouve une solution, et la solution exceptionnelle, il fait une passe de 20 yards au niveau de l'épaule extérieure du receveur, et ça marche. C'est vraiment quelqu'un, non seulement spectaculaire, beau avoir joué, mais qui trouve des solutions. Voilà, alors je ne vais pas dire c'est Patrick Mahomes, mais cette capacité-là à improviser quand il n'y a rien, ben, il trouve quand même une solution. Alors bien sûr, il y a un revers de la médaille, j'en parlerai après, mais voilà, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, et ça en NFL, c'est très important, parce que les défenses sont très bonnes, les défenseurs sont très rapides, et il faut savoir, oui, il y a un jeu qui a été appelé, mais quand c'est bouché, ben, il faut trouver une solution, et je trouve, pour moi, c'est celui qui en trouve le plus et le plus souvent. Donc c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup. En plus, il a un bras très puissant. Je veux dire, en 2023, il n'y a aucun autre quarterback au niveau universitaire qui a lancé autant de passes en profondeur précises. Voilà, donc déjà là aussi, ça fait un autre atout pour la NFL pour faire des différences dans un match. Il est vraiment très très fort. Et puis, ben voilà, la NFL moderne, on le sait, c'est beaucoup des systèmes en option. Hein, le read pass option, par exemple, c'est-à-dire, alors, c'est pas Lamar Jackson, mais je veux dire, ici aussi, utiliser ses jambes. Donc, il va faire sa lecture. Si c'est bouché, il peut feinter de la donner au coureur, y aller lui-même, etc. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Après, évidemment, les défauts, il y en a quelques-uns. Et notamment, il garde trop longtemps le ballon. Voilà, ça, c'est le revers de la médaille dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les joueurs qui sont habitués à trouver des solutions, même quand il n'y a rien, ben, ils vont forcément les chercher. Il n'y a rien, mais il va se dire, non, je vais y arriver, je vais faire un truc. Et puis, il force. Et puis, soit il lance une mauvaise passe, ou soit il garde trop le ballon et il se fait aplatir. Je veux dire, c'est lui aussi un des quarterbacks qui a été le plus saqué au niveau universitaire. Et le plus souvent, c'est de sa faute. En cela, il me fait penser un petit peu à Justin Fields. En plus, il protège mal son ballon. Il a commis, je crois, de tête plus de 30 fumbles, il me semble. Oui, c'est ça, 32 fumbles en 37 matchs. Voilà, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça, en NFL, c'est rédhibitoire, les pertes de balles, c'est pas possible. Ensuite, ben voilà, il a un bras extraordinaire. Extraordinaire, il te lance des bombes à 50 yards, extraordinaire. Mais là aussi, le revers de la médaille, les quarterbacks qui ont un tel type de bras aussi puissant, ben souvent ils se reposent là-dessus. Et du coup, il a vraiment du travail à faire au niveau du jeu de pied, du placement, de la rotation des hanches, enfin de l'équilibre général. Donc, il a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et puis enfin, ben peut-être aussi le caractère, parce que c'est important. Est-ce que Caleb Williams, c'est vraiment un leader? Ça, on peut se le demander. On a vu quand même des choses depuis 2 ans où après une défaite, eh ben, il refuse de parler à la presse. Donc ça, déjà, ce n'est pas l'attitude d'un franchise quarterback. Après une défaite, on l'a vu, c'était contre Washington, il saute en tribune, il tombe dans les bras de sa mère et il pleure. Là aussi, est-ce que c'est vraiment l'attitude d'un leader? Le dernier match de USC, par exemple, son entraîneur l'a remplacé par celui qui va jouer l'année prochaine pour voilà, le préparer. Et à la fin du match, ils ont gagné. Ce Riley, il a fait un super match. Et il dit, ben voilà, maintenant on est une équipe, il n'y a pas d'ego, on est tous ensemble, on est une équipe. Alors évidemment, il nomme pas Caleb Williams, mais tu sens sous-jacent que, bon, ben voilà, Caleb Williams est-il un leader? Je me pose la question. Moi, l'un dans l'autre, avec ses qualités, c'est vraiment un quarterback que j'aime beaucoup. Mais après, le potentiel boom or bust, c'est-à-dire il va vraiment réussir ou être un flop, et il est très élevé avec ce joueur.
Oui, je suis d'accord avec ça. Après, bon, sur la position de leader, il y a des trucs où je suis d'accord, d'autres un peu moins. Je dois avouer que le fait qu'il n'hésite pas à montrer ses émotions, moi, je ne considère pas forcément que ça soit la preuve d'un mauvais leader. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur tout ce que tu as dit. En fait, je vais m'exprimer quand je dis que c'est le quarterback numéro 3. Est-ce que c'est celui qui a le plus de potentiel? Oui, absolument. Est-ce que c'est celui qui est des trois qui potentiellement est le plus gros bust? Oui aussi. C'est un peu ça, si tu veux. C'est ça. Caleb Williams, c'est une loterie absolue. Je reste persuadé qu'il a des problèmes de lecture de jeu. Je trouve incroyable qu'il prenne autant de sacs et autant de fumbles alors qu'il est bien protégé. Là-dessus, alors dans le reste du jeu, non. Hein. Mais sur son mouvement à la poche et sur ses fumbles, il me fait beaucoup penser à Carson Wentz. Sur cet aspect-là du jeu. Après, évidemment, c'est un passeur différent, c'est une autre menace au sol. Hein. Mais là-dessus, je trouve malheureusement qu'il a un peu ce défaut, surtout qu'il est à USC, quoi. Il n'était pas mal protégé. Bon, évidemment, c'était peut-être pas la panacée par rapport à d'autres équipes, mais il était mieux protégé que Drake May, en tout cas. Et je trouve qu'il a tout simplement craqué cette saison, sous-performé. Et alors, dans un style un tout petit peu comparable, je prends tous les jours Bryce Young au-dessus de Caleb Williams, par exemple.
Oui, il est beaucoup plus précis. Alors, c'est vrai, il a fait une très mauvaise saison, mais je veux dire, Bryce Young, on l'a vu depuis 2 ans, enfin, 2 ans avant avec Alabama. On sait qu'il est très précis, très, très, très bon dans ses lectures, très fiable. Et voilà, comme tu l'as dit, Caleb Williams, c'est l'inverse de la fiabilité. Il peut devenir extraordinaire comme il peut devenir un gros flop. En tout cas, il a beaucoup de choses à corriger. Voilà, tu vois, on parlait du temps de lancer de Drake May qui est très rapide. Ben, lui, il a un temps de lancer très, très long. Il garde beaucoup le ballon. Il veut chercher la solution du super-héros à chaque fois. Et ça, il va falloir qu'il le corrige.
Oui, c'est clair. Bryce Young, bon, ce n'est pas le débat, mais vu la franchise qu'il a, les dysfonctionnements, 2 entraîneurs dans l'année, pas de receveur, etc. On attendra quelques années, je pense, toi et moi, on est d'accord, on va attendre quelques années avant de le juger. Une mauvaise première saison, ça arrive. Pour finir avec le chapeau 1, hein, j'allais dire Jalen Hurts, mais c'est presque ça. On a Jaden Daniels. Jaden Daniels, donc, qui est un peu... Le vieux de ce trio, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'évidemment, c'est un joueur extrêmement expérimenté, qui a fait ses armes dans la Pac-12 avant de rejoindre LSU cette année. Il a été Heisman Trophy, donc meilleur joueur de la saison universitaire. Jaden Daniels, en fait, ce qui est rassurant avec lui, c'est que c'est une progression constante. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'était un 6e tour, il y a 2 ans, c'était un 5e tour, il y a 1 an, c'était un 4e tour, et maintenant, c'est un 1er tour. Donc, on a vraiment l'impression d'un bosseur chez Jaden Daniels. C'est un joueur extrêmement athlétique. C'est pas pour autant une double menace pure, peut-être aussi parce que... Enfin, en tout cas, ce n'est plus à LSU parce qu'on ne lui demandait pas forcément de l'être. Mais il a montré avant qu'il pouvait jouer vraiment en double menace. Donc, athlétiquement, c'est superbe. Sa puissance de bras, très, très bien. Sa capacité à lancer en courant, aussi très appréciable. On a l'impression que ça fait partie de ces joueurs qui ne perdent pas en précision, qui lancent, entre guillemets, sur ses deux pieds ou qui lancent un peu en déséquilibre. C'est un joueur qui est... un leader, je pense qu'il l'a montré partout où il est passé. Après, comme je le disais, c'est un joueur qui a peut-être déjà atteint, entre guillemets, son potentiel, au sens où il aura 24 ans cette année, si je ne dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. C'est un joueur qui, malgré tout, n'a peut-être pas la variété de lancer que peut avoir un Drake May. C'est un joueur qui, finalement, a été très peu sous pression cette année. On l'a vu parfois dans les années précédentes paniquer sous pression. Donc, il est très bon dans tout. Après, il n'est pas genre hors norme. Dans la plupart des catégories. Donc pour moi, ça fait partie de ces joueurs qui sont rassurants, et c'est certainement pour ça qu'il finira dans top 10. Détroit, c'est peut-être celui... je reprends ma comparaison avec Caleb Williams. Détroit, c'est peut-être celui qui a le plus petit potentiel, mais par contre, donc le plafond, comme on dit, le plus bas des trois, mais c'est certainement celui qui a le plancher le plus haut des trois. Donc, c'est un joueur que tu es content de prendre en troisième position, alors en troisième quarterback en tout cas, peut-être pas troisième position, on verra, quoi que c'est pas impossible, mais c'est un joueur que tu es content d'avoir, même si, à mon avis, c'est pas le franchise quarterback. C'est-à-dire que tu construiras pas ta franchise pour lui, tu essaieras de construire une franchise solide en espérant que ça soit suffisant pour aller jusqu'au titre. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Jean-Michel ?
Oui, c'est un très très bon joueur. Et alors, si je reprends ton dernier point, effectivement, tu vois, si par exemple il est choisi la troisième position par les Patriots, ben les Patriots, il faudra quand même qu'ils ajoutent un vrai bon receveur numéro un, parce que Jaden Daniels, alors après j'en dirai un petit mot, il a fait des choses extraordinaires, mais souvent aussi il se reposait sur deux très bons receveurs, hein, Brian Thomas et surtout Malik Nabers. Et donc il y a plein de situations où, ben, en fait, il lançait le ballon à Malik Nabers, une petite passe courte, et c'est le receveur qui faisait tout le travail. Donc en NFL, ben, forcément, il va être pris haut, donc dans une mauvaise équipe, mais il faudra absolument que cette équipe ajoute un très bon receveur pour l'aider. C'est un petit peu comme Chicago essaye de faire en ajoutant DJ Moore pour Justin Fields. Il aura vraiment besoin de ça. Mais sinon, oui, moi, ce qui m'a impressionné, comme tu le disais, c'est notamment ses lancers en mouvement. Voilà, lorsqu'il y a la pression, il arrive à se décaler un petit peu, puis à trouver une bonne solution avant d'être impacté, percuté. Et il trouve la bonne solution en mouvement. C'est vraiment impressionnant. Je trouve qu'il a progressé aussi dans ses lectures. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de quarterback, comme on dit, one to out. C'est-à-dire qu'il fait une première lecture, une deuxième, et puis après, il prend sa décision. C'est-à-dire qu'il lance ou alors il court, mais il arrive à faire une, deux lectures, et puis après, voilà, il prend une décision, il ne met pas mille ans, et généralement, il prend une bonne décision. En plus, il a un bras très puissant, il trouve toutes les zones du terrain. Donc, c'est un joueur très intéressant. Voilà, après, ce qui me peut-être un petit peu le doute, c'est que quand il a commencé avec Arizona State, sa saison freshman, il était fantastique. Je me rappelle d'une passe qu'il avait fait contre Oregon, c'était incroyable. Et puis ensuite, ça a été quand même beaucoup moins bien. Alors, OK, c'était pas une bonne équipe, etc. Donc, c'est peut-être pas de son fait. La preuve, il est arrivé dans une équipe bien meilleure à LSU. Et là, il a remporté tout simplement le Heisman Trophy. Donc voilà, si tu le mets dans une bonne équipe, comme tu dis, est-ce que vraiment c'est lui qui va te porter la franchise ? Je sais pas, mais si tu le mets dans une bonne équipe, en tout cas si l'équipe arrive à progresser assez rapidement, il va être bon. C'est pas lui qui va te faire perdre. Est-ce qu'il est du calibre d'un Caleb Williams, d'un Drake May, capable de prendre une mauvaise équipe et de la remonter vers le haut? Bon, peut-être, hein, à voir. Mais c'est vrai que Détroit, c'est celui qui met un peu plus le doute là-dessus.
Eh ben, écoute, en tout cas, on verra là-dessus. Ça clôture un peu notre chapeau 1. Des trois favoris, mais on a encore trois très beaux joueurs pour le chapeau 2. Et on va commencer par le colosse au corps d'argile, comme on pourrait l'appeler, Michael Penix Jr., le quarterback de Washington, lui aussi, profil qu'on pourrait appeler expérimenté. Vous avez vu comme je suis poli, évidemment. Maintenant que je suis vieux, je me permets de dire expérimenté. Jean-Michel, Michael Penix Jr., peut-être le plus gros bras de cette draft, mais il y a quelques zones d'ombre, et notamment le dossier médical.
Oui, c'est ça. Ouais, moi, si j'avais un surnom à lui donner, ce serait Machine Gun, parce qu'effectivement, il a un bras surpuissant et en plus, il est précis. Je veux dire, on ne parle pas de jeter le ballon à 70 yards comme ça dans le vide. Non, il est précis sur les passes en profondeur. Vraiment, il est incroyable. Il a d'ailleurs complété énormément de passes de plus de 30 yards, de plus de 40 yards. Et je parle du ballon, je parle de l'air. Je vais essayer de parler français tout de même, mais je parle des yards parcourus dans les airs par son lancer, pas simplement les yards gagnés ensuite par les receveurs. Vraiment, il a un bras surpuissant, il est très précis dans ce domaine-là, et puis il attaque tout le temps. Alors après, C'est vrai qu'avec l'université de Washington, il était dans ce système-là qui faisait que c'était un système vraiment pass-happy. Et du coup, ben, c'est très bien pour la NFL moderne. Il est habitué à ce type-là de système. Un petit peu comme on a vu à Houston avec CJ Stroud qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup lancé. Ben, Michael Penix, tu le mets dans ce type-là de système et il va beaucoup lancer. Et la plupart du temps, il va trouver une très bonne solution. En plus, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ses lectures. Déjà l'année dernière, c'était pas mal, mais cette année, c'était encore mieux, je trouve. Et donc, la lecture au niveau de la progression de ses receveurs, au niveau de lancer avec anticipation, mais également les lectures de ce que fait la défense, de ce que lui donne la défense, de d'où arrivent les pass rushers. Voilà, et ben voilà, pour qu'il puisse un petit peu se décaler, etc. Et c'est très intéressant. Alors après, il y a peut-être un truc qui joue un peu contre lui, comme ça, au niveau visuel, c'est qu'il est gaucher. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des lancers gauchers. Donc parfois, on a l'impression que les ballons ne sont pas terribles. Et puis, on se rappelle de cette vidéo qu'on a tous vue sur Tua Tagovailoa, quelqu'un qui avait renversé l'axe de la vidéo. On le voyait lancer comme un droitier. On se disait, oh, ah oui, mais c'est superbe. Et cet effet visuel, voilà, du lancer des gauchers, des fois, c'est un petit peu trompeur. Après, voilà, on arrive au défaut. Ben Michael Penix, comme tu l'as dit, ça fait 2 saisons qu'il est en bonne santé et qu'il joue. Donc c'est très bien, c'est très rassurant. Sauf qu'il a une historique de blessures long comme le bras. Il a 5 saisons à l'université, dont 3 avec Indiana. Et les 3 avec Indiana, il s'est fait 2 fois le genou, 1 fois l'épaule, etc. Enfin, donc du coup, forcément, tu as une fragilité corporelle, même si depuis 2 ans, ben, ça va, il reste en bonne santé. Il était derrière une bonne ligne offensive d'ailleurs. Mais cette historique de blessure, forcément, ça va jouer. Ensuite, il y a son âge, parce que lui, oui, il aura 24 ans au mois de mai. Jaden Daniel, c'est au mois de décembre. Mais voilà, lui, il est déjà un peu plus âgé. Et pourquoi on parle de ça à 24 ans? C'est très jeune. Mais Michael Penix, alors, si vous regardez des vidéos de lui, vous verrez, il a une mécanique de lancer très particulière. Alors, ça fonctionne, mais ça fonctionne universitaire. C'est-à-dire qu'en NFL, avec des défenseurs qui sont meilleurs en couverture, avec des pass rushers qui arrivent plus vite, forcément, pour gagner en précision, il faut corriger ta mécanique, qu'elle soit la plus parfaite possible. Et le souci, c'est que quand tu as 24 ans, ben, tes habitudes, que ce soit la mécanique du bras, que ce soit le positionnement du corps, la rotation des hanches, etc., ben c'est plus difficile à corriger parce que ces habitudes sont plus installées que chez un quarterback de 22 ans. Donc voilà, son âge joue aussi contre lui. Ensuite, la petite dernière limite que je lui vois, c'est que ben, sous pression, quand même, il a montré qu'il était moins bon. Alors vous allez me dire, ben oui, mais ça, tous les quarterbacks aussi, quand ils sont sous pression, ils sont moins bons, évidemment. Mais lui, je trouve un tout petit peu plus peut-être. Après, voilà, il a quand même beaucoup de qualités. Je ne serais pas surpris qu'il soit pris en toute fin de premier tour. C'est-à-dire que pour moi, il a vraiment le niveau d'un début de deuxième tour. Mais vous savez, pour le contrat rookie, avoir la cinquième année en option, je ne serais vraiment pas étonné qu'une équipe fasse un échange et remonte, aller au choix entre 28 et 32 pour prendre Michael Penix. Parce que quand même, il a fait les playoffs, il est allé en finale universitaire, il a beaucoup de qualités. Je viens d'en parler. C'est quand même un très bon joueur.
Oui, c'est clair. Quand on dit problème médicaux, je rappelle quand même qu'on parle de 2 fois ligaments et 2 fois épaules. Hein. Donc c'est quand même du gros problème. Après, on rappellera toujours que Frank Gore se fait 2 fois les ligaments en université, 1 fois chaque genou, si je me rappelle bien, et que il est devenu certainement le coureur le plus durable de toute l'histoire de NFL et le troisième plus prolifique ou deuxième plus prolifique, je ne sais plus. Mais bon, on se souvient aussi d'un Carson Strong, par exemple, qui était attendu au deuxième ou troisième tour et où le genou était dans un état tellement mauvais qu'il a carrément fini un draft. Donc voilà, ça peut arriver. C'est des choses qu'il faut absolument garder en tête. Dans ce chapeau 2, c'est mon tour. Et on a parlé de Penix. On va raccourcir un peu le nom et on va parler de Bo Nix. Bo Nix, qui lui aussi était un quarterback de Pac-12, puisque c'est un joueur qui évolue à Oregon après avoir eu une carrière un peu en dents de scie à Auburn. Bo Nix, en fait, c'est terrible parce que moi, je trouve que c'est typiquement le syndrome, comment je pourrais l'appeler? Le syndrome Daniel Jones, et je parle de Daniel Jones à sa sortie d'université. Hein. Évidemment, quand on compare, on essaye de comparer les joueurs universitaires, ça n'a aucune indication sur leur carrière NFL. mais dans le sens où tout ce qu'il fait, c'est bien. Athlétiquement, c'est bien. Il a un beau bras. Il est capable de courir. Il a, pour le coup, tu parlais du release, donc du mouvement globalement, ça part assez vite. C'est plutôt satisfaisant. Après, je trouve que ça fait partie de ces joueurs qui ont une sorte de plafond de verre, et on l'a vu dans les matchs qui comptent. C'est-à-dire qu'il lance bien, mais pas très bien. Il scanne le jeu, mais dès que tu es face à une grosse opposition, il a un peu plus de mal à lire les défenses. Il est mobile, mais dans des gros matchs, il va parfois avoir un peu le côté, alors c'est un peu dur de dire le côté poulet sans tête, mais le côté à vouloir jouer au héros, un peu comme on a pu le voir avec Caleb Williams. Donc, c'est, encore une fois, c'est un joueur extrêmement expérimenté. Ça ne sera jamais une catastrophe. Mais c'est un joueur qui nécessite, pour moi, c'est un joueur que tu vas mettre dans une attaque où tu vas faire beaucoup de RPO, beaucoup de screen, beaucoup de jeux rapides, etc. À partir du moment où il va falloir contrôler le terrain, trouver les zones intermédiaires plus, voir des zones longues, etc., il y a une certaine limite, et pas une limite de bras, encore une fois, il a la puissance de bras, mais une limite de vision, une limite de notion de prise de risque. Je trouve que c'est j'ai pas envie d'être trop dur, mais il finira au premier ou en début de second tour, j'ai pas de problème avec ça. Il finira peut-être par être un très bon quarterback NFL, c'est loin d'être exclu. Mais je trouve que finalement, c'est un peu, si on est violent, le Drake May du pauvre, quoi. Le joueur, c'est bien, mais j'arrive pas à me dire « Waouh, c'est vraiment tellement bien que j'ai envie de prendre en 15e choix de la draft. »
Oui, oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Je veux dire, lui, c'est un petit peu comme on avait vu à Jaden Williams sa saison freshman. D'ailleurs, c'était la même saison à Auburn et on se disait « Waouh, mais quel joueur !» Et puis ensuite, il a vraiment plafonné. Alors, il s'est bien relancé à Oregon. D'ailleurs, il a fait une saison fantastique. Mais voilà, il était souvent porté par de très bons receveurs, notamment Troy Franklin. Et ouais, je pense aussi que c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un bon joueur. Je pense qu'il peut s'imposer en NFL. De toute façon, on en voit hein, des Samuel, etc., qui sont pas super, mais qui sont pas non plus catastrophiques. Mais est-ce qu'il peut vraiment devenir un très bon quarterback et amener une franchise très loin? Bah, à voir. Il faut jamais condamner, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu des doutes sur Bonix à ce niveau-là. Voilà, il a rien d'exceptionnel, comme tu le dis.
Bon, voilà, les fans d'Oregon, n'hésitez pas à venir nous insulter sur Twitter. Je vais peut-être faire ça. Je vais juste prendre nos deux phrases, je vais les accoder l'une à l'autre, je vais les mettre sur Twitter. Avec Bonix n'a rien d'exceptionnel. Bonix est bon, mais pas très bon, et il n'a rien d'exceptionnel. Et bam, là, tu vois, on a toute la communauté Oregon qui va nous tomber dessus. Mais encore une fois, on parle du chapeau 2, on parle d'un joueur potentiellement au premier tour. On n'est pas en train de vous dire que c'est un joueur catastrophique. Bien au contraire, c'est un joueur extrêmement talentueux. Mais pour la NFL, ça a certaines limites. Et on va conclure ce chapeau 2 avec peut-être le joueur le plus clivant. Parce que honnêtement, je l'ai vu dans des troisièmes tours sur certaines mocks. Et je l'ai vu top 5 dans certaines mocks. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Et en fait, notamment, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que faut savoir que dans la façon dont font les mocks, chacun a des fonctionnements différents. Dane Brugler, par exemple, au début de ses mocks, il fait comme lui a envie de faire. Et après, il fait par rapport à ce qu'il entend des GM et des coachs. Daniel Jeremiah, il l'a toujours dit, il fait ses mocks par rapport à ce qu'il entend des GM et des coachs. Pas par rapport à ce que lui observe. Il dit, moi, si vous voulez mon avis, vous regardez mon top 50, pas ma mock. Et ça, en soi, je veux dire, ça se défend. Et quand on regarde les mocks des gens qui écoutent les GM et les entraîneurs, McCarthy, donc le quarterback de Michigan, il est très, très, haut. Et c'est ça qui m'a assez étonné. Et il pourrait peut-être même devenir le troisième quarterback de cette draft si on suit cette logique. Donc Jean-Michel, je crois que c'est un joueur, toi, que tu aimes beaucoup. McCarthy, explique-nous en fait déjà pourquoi il est très bon et quels sont les défauts, en tout cas limitations, qui font que c'est un joueur qui polarise un petit peu les avis.
Oui, en fait, voilà, je vais tout te dire dans ses qualités, ses défauts. Vous allez comprendre pourquoi il est très bon et pourquoi aussi il clive un petit peu, qu'il y a des avis différents. Alors oui, moi je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup regardé Michigan cette année, j'ai eu raison, ils sont champions, hein, mais je veux dire, j'ai beaucoup regardé Michigan cette année et il m'a beaucoup plu, je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais commencer pourquoi il est souvent très haut dans les mocks. À mon avis, c'est parce qu'il vient à peine d'avoir 21 ans. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Michael Penix, 24 ans, etc., la marge de progression. Ben lui, ce qu'il a montré là depuis deux saisons, et notamment cette année, il n'a que 21 ans, il vient de les avoir. Il les a eus, je crois que c'était au début février. Il n'a que 21 ans. Donc, tu te dis qu'un joueur de 21 ans capable déjà de faire ça, mais dans deux ans, il va faire quoi? Donc, voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il est très, très haut dans les mocks. Après, moi, je le prends quand même au premier tour. Si on me demande mon avis, parce que ben, moi, je trouve que déjà, d'ores et déjà, c'est un game manager qui fait de très bonnes prises de décision. C'est en cela qui m'a beaucoup plu avec Michigan, c'est-à-dire qu'il fait très peu d'erreurs, très peu d'erreurs. Il prend tout le temps la bonne décision. Moi, là-dessus, il m'impressionnait. Et alors, ce n'est pas une double menace non plus, mais quand il fallait courir, il courait, s'est lancé, ils étaient toujours précis. Sur le terrain, c'est un leader, il est calme, il est clutch dans les grands moments. Techniquement, il est très propre, il a beaucoup de qualité, puis il a à peine 21 ans. Donc voilà, vraiment, c'est un joueur. Moi, je le prends tous les jours au premier tour, même si les Raiders veulent le prendre avec le 13. Je trouve qu'il ne sera pas tout à fait prêt, mais il vaut largement le coup, il n'a que 21 ans. Après, voilà, pourquoi il clive? Ben, déjà, parce que il joue avec Michigan. Michigan, ça veut dire quoi? Ça veut dire équipe dominante. Hein, ils sont champions, ils battaient tout le monde. Ça veut dire qu'ils jouaient derrière une ligne offensive, pardon, excellente, depuis deux ans, excellente. Donc, forcément, ça aide au niveau universitaire. Quand il va arriver à NFL, malheureusement, il n'aura pas forcément une ligne offensive aussi dominante. La ligne offensive sera meilleure que celle de Michigan, c'est pas ce que je veux dire. Mais au niveau NFL, elle ne sera pas aussi dominante. Donc forcément, voilà, il sera un peu moins à l'aise. Et puis, il jouait dans une attaque qui courait beaucoup. Un des reproches que certains lui font, c'est qu'il y a eu un ou deux matchs cette année où il a lancé quoi, 10 passes. La plupart du temps, il courait. Ben, ils avaient raison, ça marchait. Déjà, il y avait Blake Corum, il y avait Donovan Edwards, et puis cette ligne offensive, donc il courait beaucoup. Et donc, on demandait à J.J. McCarthy de lancer quelquefois une passe. Et moi, il m'impressionnait, parce qu'à chaque fois, c'était un bon choix, ses passes étaient bonnes. Si tu te projettes sur la NFL, franchement, tu as besoin d'un quarterback capable de lancer 30 passes dans un match et vraiment de prendre le match à son compte dans le jeu aérien. Est-ce que lui en est capable? Moi, je le pense. Après, est-ce qu'il a montré à Michigan? Non, mais c'est par rapport au système. Donc, c'est pour ça aussi qu'il clive, moi, je trouve. Mais c'est un joueur que je lui trouve plein de qualités. Et puis, vu son âge, bah ouais, moi, j'aime beaucoup.
Oui, bah, J.J. McCarthy, c'est un saut dans l'inconnu. Tu l'as dit, il est dans une franchise qui ne fait que courir, si on schématise un petit peu. Il n'avait pas besoin de faire plus, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait, et il a très bien fait, ce qu'on lui a demandé de faire. Mais on lui fait quasiment un procès parce qu'il n'en faisait pas plus. Mais il y a un moment, si ton équipe marche comme ça, est-ce que tu as besoin d'en faire plus? Je ne suis pas sûr. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'impression d'un joueur où on parle souvent de projection. Bah là, ce n'est pas seulement projeté sur est-ce qu'il peut être bon en NFL. Là, c'est carrément projeté globalement sur quel type de joueur c'est. Je pense que le combine va beaucoup l'aider. Parce qu'à mon avis, il est beaucoup plus athlétique et il a un bien meilleur bras que certaines personnes ne le pensent. Notamment son bras. Hein. Si, regardez, il n'y a pas beaucoup de passes, certes. Mais il y a un bon bras qui peut aller très loin. Donc, je pense que les thèses vont être importantes pour lui. Le Pro Day aussi. Ça fait partie de ces joueurs dont on aimerait bien voir au combine un petit match quand même, tu vois. Ça serait sympa qu'un jour il fasse ça. Alors, peut-être pas au niveau du Senior Bowl, mais tu vois, des 7 contre 7, tu vois ce que je veux dire ? Des petits affrontements, ça rajouterait un peu de piment, et puis ça permettrait à certains joueurs de se montrer. Mais c'est vrai que c'est un joueur vraiment polarisant, mais encore une fois, voilà, je le vois assez régulièrement sur des top 10. Donc là, on a parlé des joueurs qui, normalement, sauf catastrophe, feront le top 50 et probablement peuvent faire un premier tour. Là, on va aller sur des joueurs un peu différents. Et au niveau du chapeau 3, je vais faire un peu vite parce que je sais que mes collègues ont déjà fait un podcast pendant que j'étais à Vegas dessus. J'ai fait exprès de ne pas l'écouter pour ne pas être biaisé et que vous ayez un avis un peu différent. Je l'écouterai ce soir. C'est le cas Spencer Rattler. Alors, Spencer Rattler, à la base, c'est une superstar lycéenne. Une superstar médiatique parce qu'il avait participé à, comment ça s'appelait, One ou je ne sais plus quoi, le documentaire à l'époque.
C'était sur Netflix. QB hein, One, oui.
Ouais. Bon, voilà. Donc, on en était là et il a eu une carrière un peu compliquée, en tout cas en dents de scie, au point de perdre sa place de titulaire et de finir à South Carolina. Mais en fait, Rattler, il a tout ce qu'il faut en termes de talent. Pareil, puissance de bras, mobilité, athlétique, capable de lancer sur les trois rideaux, capable de lancer au milieu du terrain, sur l'extérieur, etc. Et en plus, il semble quand même que cette année, il est vraiment mûri dans une équipe qui n'était quand même pas optimale offensivement en termes de protection et de cible. Alors, il y a toujours des absences mentales. C'est-à-dire qu'il a toujours, par moments, des passes complètement manquées. Tu ne comprends pas pourquoi. Des choix parfois absolument incompréhensibles qui peuvent mener à des interceptions saucisses ou des sacs un peu idiots. Donc, il est toujours un peu frustrant. Mais malgré tout, il semble quand même s'être remis la tête à l'endroit. Et en termes de potentiel pur, bah, je suis désolé, mais il est très, très haut. Si je voulais provoquer, à part May et Caleb Williams, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait plus de potentiel que lui. Après, il a derrière lui 4 années de tête de con. Pardon d'être un peu violent, mais il a quand même souvent montré une absence totale de leadership, etc. Là encore, on entend beaucoup que dans les interviews, il a changé, il a pris du recul, etc. Donc, franchement, ne soyez pas surpris si une équipe cède au... même peut-être au deuxième tour, hein, sur Spencer Rattler. Alors évidemment, le plus probable, c'est peut-être plutôt au troisième, quatrième tour. Mais attention, parce que là, on est sur une sorte de diamant brut qui s'est un peu abîmé avec les années, mais que là, on fait revivre et on se rappelle à quel point ce diamant était brillant à la base. Jean-Michel, et quel est ton avis sur le sulfureux Spencer Rattler ?
Ben, le même que toi, en fait, parce que moi, je serais pas surpris, tu vois, qu'il soit pris avant Bonix, qu'il soit pris avant Michael Penix, qu'il soit pris avant beaucoup de quarterbacks, parce que oui, voilà, un cursus en temps de scie. Alors oui, à Oklahoma, il n'a pas été très bon, puis ensuite, ben voilà, il y avait Caleb Williams, donc c'est ça aussi, hein, il n'a pas perdu sa place contre le premier venu, mais à USC, enfin, le USC, le South Carolina, l'année dernière, vraiment, moi, il m'a impressionné. Parce que, comme tu disais, le talent, on savait qu'il avait. Mais là où il m'a impressionné, c'est qu'il était très bon dans un contexte difficile. Parce que South Carolina, ça joue dans la meilleure conférence universitaire, mais pas avec les mêmes armes que tous les Alabama, Ole Miss, Georgia, etc. Je veux dire, déjà en plus, l'équipe, il y avait beaucoup de blessures, il y avait très peu de cibles, une O-line vraiment pas terrible. Et tu regardes ces matchs, mais c'était incroyable. Il faisait un taux de passes complétées exceptionnel, relativement peu d'interceptions. Et puis sur le terrain, voilà, on a vu un autre joueur, on a vu un leader, quelqu'un qui va toujours au combat, qui lâche jamais rien. Il y a vraiment une attitude qui tire tout le monde vers le haut. Donc un joueur qui a ce talent et qui a cette attitude-là, moi je ne serais pas surpris que les scouts NFL l'aiment beaucoup plus que les gens qui suivent le football universitaire depuis quelques années. Donc moi je le vois très très bien au deuxième tour. Par exemple, une équipe qui aurait besoin d'un quarterback, allez, pour dans 1 ou 2 ans, allez, je ne sais pas, Seattle par exemple, qui au premier tour ne prend pas un quarterback et puis au deuxième tour peut miser une pièce sur Spencer Rattler parce qu'il a montré vraiment beaucoup de maturité. Et je pense, tu vois, tu parlais de JJ McCarthy qui pourrait marquer des points au combine avec ses qualités athlétiques. Lui, je pense que le combine sera très important au niveau des entretiens. Et ce qu'il a montré cette année, s'il le confirme dans les entretiens, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est devenu plus mature, ben il peut partir très très haut.
Oui, je suis d'accord avec ça. Donc, ça sera probablement une intrigue assez énorme du poste de quarterback. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur Rattler, il y a un podcast qui en parle en long, en large et en travers. Jean-Michel, on va finir avec toi et tu vas nous parler d'un joueur. Moi, je suis très content qu'on en parle parce que c'est le grand jeu toujours de. Qui sera un peu la surprise, la petite pépite, etc. Machin. Alors, qui sera le nouveau Brock Purdy? C'est ça qu'il faut dire si vous voulez faire des clics d'ailleurs. Et il s'agit de Michael Pratt, donc le quarterback de Tulane. Donc Tulane, qui est mine de rien une université, et probablement grâce à Pratt aussi, qui a quand même connu des belles performances ces dernières saisons. Parle-nous justement de Michael Pratt et de ce qu'il peut faire de lui, entre guillemets, la surprise de cette draft.
Ben, parce que c'est un quarterback fiable. Voilà, il est fiable. Tu vois, tout à l'heure, on parlait qu'un quarterback, ça doit être quelqu'un qui arrive à tirer tout le monde vers le haut, à vraiment faire des choses extraordinaires par lui-même. Est-ce que Michael Pratt, c'est ce type de joueur? Je ne suis pas certain, mais en même temps, tu parlais de Brock Purdy à sa sortie d'Iowa State. Est-ce qu'on se disait que c'est quelqu'un d'extraordinaire avec des qualités incroyables? Non, par contre, on l'avait bien vu, on savait que c'était un quarterback fiable. Ben, Michael Pratt, c'est ça, exactement. C'est-à-dire quelqu'un, grosse production, beaucoup d'expérience, 4 saisons, énormément de touchdowns lancés, très peu d'interceptions. Techniquement, il est propre, c'est vraiment un lanceur depuis la poche, il est intelligent, il fait des bonnes lectures et il est précis dans ses lancers. Il a vraiment beaucoup de qualités. Après, ben, pourquoi on en parle comme un sleeper? Ben, déjà parce que, ben oui, Tulane, oui, c'est vrai, une bonne université qui sort d'ailleurs des joueurs, hein, le linebacker de Ryan Williams, etc. Mais c'est quand même du Group of Five. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que ben, forcément, quand tu rencontres pas Michigan, Ohio State, Alabama, etc., ben, tes adversaires sont un peu moins bons. Et du coup, c'est un petit peu plus facile de paraître bon face à des adversaires qui sont moyens, on va dire. Donc voilà, déjà, ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est que ce n'est pas vraiment un joueur athlétique. Et dans la NFL, depuis quelques années, on le voit bien, il faut être athlétique. Alors, OK, par exemple, CJ Stroud, ce n'est pas une double menace, mais CJ Stroud, ce n'est pas le meilleur des athlètes, mais il est capable, si c'est tout bouché, d'aller gagner des yards au sol, etc. Est-ce que Michael Pratt peut le faire? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il doit le faire? Je ne pense pas, parce que sinon, avec son physique, ça risque de, il risque de le payer. Donc, c'est vraiment un joueur qui a des limites, mais qui est intriguant. Et je pense qu'il peut partir, oui, comme tu dis, fin de troisième, quatrième tour, tu le prends comme quarterback remplaçant, à minima. Déjà, c'est quelqu'un, voilà, qui a montré des qualités, qui a de l'expérience. Tu sais que ça va être un bon remplaçant. Et si tu en as besoin pour quelques matchs, ben, il peut faire l'affaire parce qu'il est fiable. Tu ne feras pas reposer le poids de l'attaque sur lui, mais tu peux compter sur lui. Et après, ben, sait-on jamais, hein? Peut-être, hein? On parle de Brock Purdy, ben, écoute, peut-être.
Ah, pardon, j'ai fait l'erreur du débutant, Jean-Michel, je t'ai répondu alors que j'étais en mute. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve que pour le coup, à minima, ça fait partie de ces joueurs. À minima, ce sera un excellent backup. C'est un peu le... J'allais dire, c'est un profil différent, mais un peu comme O'Connell, quand il a été pris, où je me disais, bah, à minima, ça sera un excellent backup. Et d'ailleurs, il a prouvé, franchement, c'est pas titulaire du futur à Vegas, mais il a prouvé qu'en backup, c'est largement, largement mieux que la plupart des franchises de NFL. Donc pour le coup, non, Pratt, j'aime beaucoup. Et ça fait partie des noms. Ça sera pas flashy. Les gens vont pas regarder ça avec un œil en disant « Oh là là, Pratt, où est-ce qu'il est parti ?» Et pourtant, je pense que ça peut être un choix très judicieux. Donc voilà, on arrive au bout de cette pastille. On vous a parlé de 8 joueurs. Donc à chaque fois dans l'article, d'ailleurs, je remettrai à l'écrit les noms, prénoms et université des joueurs parce que c'est un commentaire qu'on a eu plusieurs fois les saisons d'avant en disant « Voilà, on entend à l'oral, mais parfois, forcément, on ne sait pas comment ça s'écrit. » Donc, je remettrai dans l'article l'intégralité des joueurs cités. Comme ça, vous aurez un petit peu l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Merci, Jean-Michel.
Merci, Victor. Bonne journée, tout le monde.
Eh ben, bonne journée à vous. Vous nous retrouvez la semaine prochaine. Et je peux vous dire en exclusivité, le prochain podcast, ça sera Nitti et Tonio qui vous parleront, si je ne dis pas de bêtises, du poste de défensif tackle. Merci à tous, à la semaine prochaine. Salut, salut!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.